1, 2. Amen. Mon espoir est en notre Dieu. Amen. Je pense que on a beau dire, hein, on n'a pas envie de vivre forcément le désespoir dans nos vies, mais y a-t-il meilleur endroit pour vivre la gloire de Dieu? Il y a quelque chose de très contradictoire là-dedans, hein, n'est-ce pas? On fuit là où on peut voir vraiment sa puissance. Alors je dis pas qu'il faut la prier, hein. On voit la misère, Seigneur. Mais je trouve que c'est le meilleur endroit pour vivre sa puissance. En fait, notre désespoir, c'est l'occasion qu'il se manifeste. Gloire à Dieu. Qui a lu l'Apocalypse depuis? Allez-y. Qui s'est remis à relire l'Apocalypse? Très bien. Je vais courtement, mais vraiment très courtement, parce que je ne veux vraiment pas être aussi long que la dernière fois. J'ai introduit beaucoup de choses sur ce livre la dernière fois, mais je vais revoir simplement courtement ce que nous avions vu la dernière fois. Nous avons vu 1, 2, 3, les trois premiers chapitres très brièvement. C'est ce qui concerne les sept églises d'Asie. Tu peux passer à la vignette suivante, s'il te plaît. Nous avions vu aussi le chapitre 4, qui est un chapitre d'introduction. C'est celui qui est assis sur le trône, c'est le Père qui règne et qui se retrouve avec un livre. Vous vous rappelez le livre? Alors, je voulais matérialiser parce qu'on m'a dit on n'avait pas bien vu l'image. Donc, je voulais matérialiser ce soir. C'est un rouleau avec sept sceaux écrits à l'extérieur, mais surtout écrits à l'intérieur. Et le Père qui est sur le trône tend et dit, mais qui peut le saisir? Et à ce moment-là, Jean pleure parce qu'il n'y a personne qui répond à cet appel jusqu'à ce que Jésus arrive. Et Jésus vient d'être enlevé par la nuée, vous vous rappelez? Il vient d'être enlevé, il était avec ses disciples, c'est Actes chapitre 1. Et là, les disciples ne voient pratiquement plus Jésus, il est enlevé dans une nuée qui amène le Fils de l'homme auprès du Père. Et Jésus récupère le livre à sept sceaux, le rouleau à sept sceaux. Et en effet, ce passage, et c'est le chapitre 5, c'est l'intronisation de Jésus. C'est tellement important de comprendre que ce chapitre est clé pour tout comprendre. Il est en effet l'agneau immolé, il est glorifié et il est là souverainement élevé. Il a le rouleau qui s'apparente à une forme de sceptre, hein. C'est tellement particulier, mais que Jésus va défaire au fur et à mesure. Il va défaire les sept sceaux, c'est le chapitre 6 de l'Apocalypse. Et là, nous étions restés un petit moment sur le chapitre 6, le chapitre 7. Chapitre 8, qui relate ce que Jésus fait. Il libère les sceaux. Et en libérant les trois premiers sceaux, nous l'avions vu, nous avions regardé ça ensemble, il a libéré les quatre premiers cavaliers de l'Apocalypse. Vous me suivez toujours? En libérant ces quatre cavaliers, il a ce que moi j'appelle, alors ça c'est moi, il a libéré la contre-attaque de l'ennemi. On peut passer à la vignette suivante. Je vous ai fait ce schéma pour représenter ce que nous avions vu, et nous avions vu toute la partie contre-attaque, avec les sceaux, les quatre sceaux ici, qui représentent donc ces quatre cavaliers, et les trois derniers sceaux que vous trouvez à peu près par ici. Et la contre-attaque va crescendo, elle va augmenter dans le temps, jusqu'à l'apogée, qui sera l'arrivée de l'Antichrist, ou l'Antéchrist, en fonction des versions et de ce que vous pouvez comprendre derrière. Beaucoup pensent que l'enlèvement de l'Église pourrait se faire en même temps que l'avènement de l'Antichrist, ou la pression que le premier cavalier de l'Apocalypse, le cheval blanc, ce cavalier qui part avec des flèches, qui est parti en vainqueur pour vaincre, c'est une période où nous verrons l'activité satanique malheureusement aller crescendo. Et comment ne pas constater ça dans notre société? Où on voit des valeurs fondamentales s'étioler, s'effriter, où on voit que finalement le mal prend place, qu'on le veuille ou non, et est en train d'établir son futur royaume, est en train d'établir sa future domination. Et ces quatre cavaliers sont en course, et nous les vivons, jusqu'au moment où nous verrons peut-être l'avènement de l'Antichrist. Et on pense, parce que nul ne sait le jour ni l'heure de l'arrivée de notre Seigneur, celui qui viendra nous chercher, mais on pense que dans des périodes de temps tellement difficiles, l'Église va être enlevée. Et c'est Matthieu chapitre 24 qui relate ça, qui exprime ça après des temps de persécution, mais de plusieurs formes. Comprenez, nous avons une forme de persécution en tête, mais il y a une persécution morale, il y a une persécution physique, il y a une persécution spirituelle. Et mes frères et sœurs, nous n'échapperons pas à ça. Pour ceux qui le verront, peut-être certains seront repris avant, peut-être il y en a qui prient, Seigneur, reprends-moi peut-être avant. L'Église arrivera à des temps de pression spirituelle telle, et on aura certainement l'occasion d'en reparler, et ça sera la semaine prochaine, que Jésus va entendre le cri de son peuple. Il vient venir chercher son Église, et c'est la flèche qui part en haut, c'est l'enlèvement de l'Église, et nous en avons un magnifique descriptif dans Apocalypse chapitre 7, où une myriade de gens, de milliers, des milliers de personnes seront devant le trône en train d'adorer, une palme à la main, la robe blanche, et nous serons dans la félicité avec le Père. Et nous adorerons Jésus. C'est l'Église qui est enlevée. Et elle est autour de Jésus et elle adore Jésus. Et nous voyons les quatre sceaux, les trois sceaux que nous avions vus. Et le dernier sceau, le septième sceau, marque une demi-heure particulière où est-ce le moment où l'Église va être enlevée? Est-ce le temps? Mais la bascule, c'est qu'après la demi-heure, nous rentrons dans ce que moi j'appelle la colère de l'agneau, et c'est ce que nous allons voir maintenant. C'est particulier de parler de colère de l'agneau pourtant. Et si tu peux mettre la vignette suivante, s'il te plaît. C'est ce que l'Apocalypse emploie. Il est très particulier de... Il y a quelque chose de très contradictoire dans la colère de l'agneau. On connaît notre Jésus patient. On connaît notre Jésus plein d'amour. On connaît notre Jésus qui est riche en miséricorde, en compassion pour le pécheur. Mais quand on lit ce passage-là, c'est le sixième sceau. C'est à la fin du sixième sceau. C'est ce qui va basculer dans le septième. Et voilà ce que les gens, les habitants de la terre, l'Église est partie. Et il ne reste que les nations. Et comprenez, c'est tellement important de comprendre ce qui se passe. Il ne reste que les nations, et en particulier les nations dirigées par l'Antichrist. Il ne reste que... Et quand les choses tournent au vinaigre, voilà ce qu'il nous dit. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. C'est particulier de voir combien la grâce, mes frères et sœurs, nous fait vivre quelque chose d'extraordinaire. La grâce va s'arrêter. La chronologie ou la suite de l'humanité va continuer, mais la grâce, quand elle va s'arrêter, va laisser place à un Jésus vengeur. C'est particulier d'entendre ça. On a tellement l'image d'un Jésus bon, gentil, qui tend la joue et qui nous demande d'en faire autant. Mais une fois qu'on rentre, que l'Église est enlevée, c'est toute une autre histoire. La grâce est terminée et la fin de l'humanité va prendre un autre virage et Jésus va venir en vengeur. Il faut comprendre pourquoi Jésus vient en vengeur, parce que quand Jésus vient chercher l'Église, son Église est en souffrance. Son épouse, et je ne sais pas quel mari, parce qu'il y a tellement cette image qui est là, qui doit être à notre esprit, il est l'époux, et il a vu son épouse dans une souffrance. Et l'Église même, et je vous invite à lire le cinquième sceau, dans le cinquième sceau, les martyrs disent à Jésus, quand est-ce que tu vas tirer vengeance de ce qu'on nous fait subir ici-bas? Quand est-ce que tu vas sauver ton Église? Quand est-ce que tu viens les chercher? Et Jésus va dire encore un peu de temps. Le Père va dire encore un peu de temps. Le nombre n'est pas complet encore. Et on sent que Dieu use de patience, use de patience, use de patience, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la colère soit libérée. Et en effet, à partir du septième saut, la demi-heure, on bascule dans autre chose, ce que moi j'ai appelé la colère. Est-ce que tu peux revenir en arrière, s'il te plaît ? Juste en arrière, on va avancer. Et la colère de l'agneau est caractérisée par deux choses essentiellement, les trompettes et les coupes. Sept trompettes, sept coupes. Une période un peu particulière où en effet, l'agneau n'est plus celui qu'on connaît. Il vient pour régler les comptes avec des nations qui ont martyrisé son Église. Ça va chauffer. Et en effet, quand on fait un tableau récapitulatif, là je vais te demander d'avancer deux vignettes. Encore une. Voilà ce qu'il en est et ce que l'on peut voir et comprendre de des sept trompettes et des sept coupes. Et permettez-moi d'introduire cette partie un peu compliquée qu'on appelle la colère de l'agneau. C'est sans doute l'une des parties les plus compliquées de l'Apocalypse à comprendre. Moi-même, je vais vous avouer que je ne comprends pas tout. Et d'ailleurs, il y a peu de gens qui comprennent. Donc, c'est ça qui est rassurant. Hein. Si vous sortez de là et que vous n'avez pas tout compris, je vous rassure. Maintenant, on va quand même en tirer des conclusions simples, vous verrez. Mais permettez-moi déjà de vous expliquer pourquoi cette partie-là de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de notre Terre, de ce que Dieu a prévu, est compliquée. Et l'une des premières raisons pour lesquelles la colère de l'agneau est complexe, c'est comprendre comment les différents fléaux s'articulent. Finalement, il n'y a aucun commentaire, aucun théologien qui est d'accord sur comment les choses vont se passer. Aussi, je vais vous apporter certaines explications, mais vous pourriez trouver d'autres explications qui seraient tout autant valables. Ce que je vais m'atteler à faire, c'est vous amener à comprendre pourquoi c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué à comprendre, à cerner. La première des choses, c'est qu'on peut constater, en effet, entre les trois fléaux, vous avez en effet les sept sceaux, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est les sceaux que Jésus va libérer. Vous avez les quatre cavaliers qui partent, le cinquième sceau, c'est les martyrs. Le sixième sceau, c'est cataclysmique, c'est le soleil qui s'éteint, c'est des tremblements de terre. Le septième sceau, c'est la demi-heure et la libération des trompettes. La deuxième série de fléaux, c'est les trompettes. Je les ai notés, c'est de la grêle mêlée de sang sur la terre, c'est les arbres, l'herbe, tout est brûlé. La deuxième trompette, c'est la montagne de feu qui jette dans la mer. Et puis là, tous les êtres vivants, les trois quarts des êtres vivants dans la mer vont mourir. La troisième trompette, c'est l'étoile d'absinthe. C'est deux tiers des eaux qui sont contaminées et il y a des morts par empoisonnement. La quatrième trompette, c'est un tiers de la clarté de la terre qui disparaît. C'est le ciel, c'est le soleil qui s'obscurcit, la lune qui s'obscurcit, les étoiles qui s'obscurcissent. Et finalement, la terre vit une période où un tiers de la clarté disparaît. La cinquième trompette, c'est l'abîme, où un astre brillant va avoir la clé de l'abîme, va libérer, et c'est les fameuses sauterelles. Ça vous parle, les sauterelles ? Il y a presque un chapitre qui est dédié à la description de ces fameuses sauterelles. Mais c'est pas étonnant. Qui piquent, elles ont un dard semblable au scorpion. Sixième trompette, c'est les quatre anges de l'Euphrate, quatre cavaliers à nouveau, et qui vont délivrer et délier une armée, une grande armée, avec un tiers des hommes qui sont tués. Et vous avez la septième trompette, c'est les voix, une voix forte, des voix fortes, qui disent que le monde est remis à Jésus, avec des éclairs, avec des voix, avec des tonnerres, des tremblements de terre, et une forte grêle. Et puis vous avez les sept coupes de l'Apocalypse, chapitre 15 et 16, Et c'est ça qui est compliqué, parce que vous avez une partie dans l'Apocalypse, chapitre 8, 9, 11, vous en avez une autre dans le chapitre 15, 16, au milieu vous avez 12, 13, 14, qui sont en lien avec la bête, et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Et au final, on se rend compte que les fléaux et la colère de l'agneau se répartissent dans différentes parties, ce qui amène les commentaires à être un peu perdu sur comment tout cela va s'articuler, comment ces fléaux vont s'articuler. Certains y voient une certaine continuité, c'est-à-dire que vous commencez par les sept sceaux, vous avez les sept trompettes, et puis après vous avez les sept coupes. Certains y voient les sept sceaux qui se prolongent jusqu'au septième, et puis au milieu des septièmes, vous avez les septièmes trompettes, puis les sept coupes. C'est tellement compliqué à s'articuler parce que quand on y regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a des points de convergence assez étonnants. Et je vais vous inviter à aller voir, c'est ce que j'ai mis en rouge, entre les sept trompettes et les sept coupes. La première trompette et la première coupe n'ont pas grand-chose en commun, mais la deuxième, on se rend compte que c'est la mère qui est touchée, et elle est touchée et elle provoque la mort d'êtres vivants, à savoir un tiers des animaux de la mer, tandis que dans les coupes, il n'est pas précisé la quantité, mais on se rend bien compte qu'il y a un lien assez étroit dans ce qu'il décrit entre la deuxième trompette et la deuxième coupe. L'étoile d'absinthe qui tombe dans l'eau et qui pollue les eaux, qui les transforme, qui les rend empoisonnées, dans la version coupe, ça donne du sang, et on se retrouve très très proche, rappelez-vous, de ce qui se passe dans Exode, où à un moment donné, le Nil et les eaux du Nil et tout ce qui est autour se transforment en sang, et on se rend compte qu'il y a des parallèles juste étonnants. Vous avez la quatrième trompette, c'est un tiers des clartés, et le soleil et la lune et les étoiles qui disparaissent, la terre est dans le noir, et quand on regarde la quatrième coupe, c'est une coupe qui est versée sur le soleil, et finalement, c'est ce qui est très particulier, c'est que lorsque, au plus notre ciel s'obscurcit en termes de particules, nous vivons nous-mêmes le réchauffement climatique, c'est plus une nouveauté quand on parle de... Mais en fait, l'idée, c'est que ça crée un effet de serre. L'effet de serre accentue la chaleur. On verra de moins en moins le soleil. Pour autant, il fera de plus en plus chaud. Et finalement, c'est ce qui est décrit au travers de la coupe qui est versée sur le soleil. Finalement, c'est la chaleur qui va augmenter. Quoique la clarté va diminuer, l'effet de serre va augmenter et ça va brûler les hommes. Et on se rend compte finalement que la quatrième coupe, je vais y arriver, relatent la même chose mais dans une vision différente. Si on regarde par exemple la cinquième trompette, pareil, là c'est l'abîme qui s'ouvre, des sauterelles qui piquent, ça entraîne de nombreuses souffrances. La coupe est versée, elle, sur le royaume de la bête, qui couvre de ténèbres et de souffrances et d'ulcères. Et on peut voir un lien de cause à effet encore, où les deux coupes et trompettes sont très similaires. La sixième coupe et trompette est encore plus marquante, puisqu'elles font toutes les deux, référence, ces deux fléaux font référence à l'Euphrate, et des cavaliers qui sont libérés, qui libèrent une armée, et de l'autre côté, c'est l'Euphrate qui tarit, invitant une armée à s'approcher, et je vous inviterai à lire ça dans Apocalypse chapitre 16. Et vous avez enfin la septième trompette et septième coupe, où là, les mots se juxtaposent de façon étonnante, où vous vous entendrez parler de voix, qui parle que c'est remis à Jésus, une voix forte, et là on parlera d'éclairs, de voix, de tonnerre, de tremblement de terre, de forte grêle, d'éclairs, de voix, de tonnerre, de tremblement de terre, forte grêle. Ce qui amène beaucoup de commentaires à dire que finalement, les trompettes et les coupes, c'est kiff-kiff. Sauf que c'est vu d'une façon un petit peu différente. C'est comme si, et c'est ce que j'expliquais en préambule de l'étude sur l'Apocalypse, c'est que Jean reçoit des visions, mais on ne lui dit pas à quand ça correspond. Ce n'est pas des visions chronologiques. Il reçoit ça d'une façon indépendante, et il écrit ça, et puis peut-être avec un peu de recul, Jean s'est dit, j'ai raconté la même chose. Possible. Du coup, tout c'est le fait que les textes ne soient pas dans la chronologie, invite certains à prendre le texte très littéral et dire non, ce sont les coupes suivent les trompettes et puis les trompettes suivent les sauts. Quand on y regarde de près, c'est moins figé qu'il paraît. Et ça a amené les commentateurs et tous ceux qui travaillent les Écritures à amener plusieurs versions de la fin. Alors je vais vous en proposer quelques-unes. Vignette suivante. Ça, c'est les deux textes qui sont similaires. Je vais aller très vite. Apocalypse chapitre 11, versets 15 et 16 et 17. Je vais avancer, excuse-moi. Vous pourrez trouver différentes théories ou approches du texte. Finalement, vous avez les sept sceaux, suivi des sept trompettes, suivi des sept coupes, suivi de l'Armageddon, suivi des cataclysmes, du cataclysme et suivi du millénium. Mais vous pourriez aussi trouver l'articulation des fléaux de la façon suivante. Vous pourriez avoir les quatre sceaux, puis le cinquième, puis le sixième et septième, dans lequel vous trouveriez les trompettes et les coupes en simultané. Et vous pourriez trouver une dernière approche. J'espère que je ne vous perds pas. Et c'est celle en laquelle je crois, moi, après avoir étudié les textes, vignette suivante, c'est celle que je vous ai montrée au départ, où nous vivons les quatre premiers sceaux qui amènent une apogée de l'Antichrist. Les trois derniers sceaux se suivent. Le septième sceau, c'est la demi-heure. Et vous avez les sept trompettes et les sept coupes en simultané avec ce déferlement de catastrophes naturelles successives avec un apogée, la septième et la sixième trompette, où il y aura des tremblements de terre, où il y aura de la grêle, il y aura des éclairs, où le monde va vaciller, où les continents vont vaciller. Et c'est cataclysmique, réellement. Et la dernière coupe et la dernière trompette sont cataclysmiques, réellement. C'est ce qu'on appelle la fin du monde, à juste titre. Où tout ce que l'humanité a pu connaître, où tout ce que l'humanité avait établi, va vaciller, va tomber. Et on comprend pourquoi, dans Apocalypse chapitre 6, il est dit que les hommes vont se cacher, vont se terrer sous les montagnes, parce qu'ils ne veulent pas affronter ça, ils ne veulent pas affronter la colère de Dieu. Et on se rend bien compte que c'est... Et ce n'est pas l'enfer. Il faut dire ce qui est. Ce n'est pas l'enfer. Et vous savez, je me suis dit, mais Seigneur, j'ai une double raison de partir dans l'enlèvement. Parce que c'est la double peine. Vous n'êtes pas enlevé, vous vivez la colère de l'agneau. Et puis, si ça ne suffit pas, ben, vous vivez le jugement dernier. C'est quand même violent. C'est quand même très dur. Et finalement, les trompettes et les coupes, à mon sens, et moi, ce que j'en comprends et de ce que j'en établis, vont se passer simultanément dans des approches et des regards un petit peu différents. C'est comme si j'en regardais les choses d'une façon différente, mais on voit que ça va être une déferlante d'événements et de catastrophes où l'homme va souffrir, clairement. Où la population mondiale va être confrontée à des cataclysmes, des choses qu'elle n'a jamais vécues jusqu'à présent, avec ce point culminant que sont la septième coupe et la septième trompette, où là, tout va s'ébranler. Il est même dit que les tremblements de terre vont être tellement violents que les continents vont se déchirer, que les îles vont se déplacer. C'est vous dire ce que cette population va vivre en très peu de temps. C'est un laps de temps extrêmement court que la colère de l'agneau. C'est une histoire de quelques mois, voire peut-être une année, et avec un point culminant que sont la septième coupe et la septième trompette. La deuxième difficulté qui est en lien avec la colère de l'agneau, on va avancer s'il te plaît, c'est finalement l'interprétation des différents fléaux. Je ne vais pas rentrer dans ces discussions et dans ce débat pour la simple et bonne raison, c'est que bien souvent les prophéties comme celle de Daniel n'ont trouvé leur sens que 500 ans, des années plus tard. Et en fait, la vraie problématique que nous rencontrons sur cette période-là, elle est très complexe, cette période-là, parce qu'elle est sujette à plein d'interprétations. Je me suis permis de vous donner l'exemple de la cinquième trompette. Lorsque le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui tombait du ciel sur la terre, la clé du puits de l'abîme lui a été donnée. Il y a énormément d'interprétations qui sont en lien avec ça. Alors, on pourrait parler d'une météorite qui tombe, on pourrait être dans un sens en effet très propre et pas figuré. Sauf que quand on réfléchit aux termes qui sont employés, une étoile qui est tombée du ciel, ça ne vous fait pas penser à quelque chose. Hein? Alors il y a plusieurs versions. Mais en effet, ça fait penser à Satan, à qui il a été remis la clé de l'abîme. En effet, on peut voir là-dedans une image en effet, qui est propre, on est plutôt dans le figuré là du coup, où Satan récupère la clé de l'abîme. L'abîme est un terme qui est employé et c'est très intéressant parce qu'on retrouve cette idée de l'abîme, c'est une prison. Ce n'est pas l'enfer. Et vous retrouvez cette référence quand à un moment donné, Jésus va chasser Légion. Vous vous rappelez de ça? Quand Jésus chasse Légion, ce que craignent les démons, c'est que Jésus les envoie là-dedans, dans l'abîme. Et ils vont obtenir de Jésus qu'il soit mis dans des ports. qu'ils soient refilés dans des ports, qu'ils vont finir dans le lac de Galilée et qu'ils vont se noyer dans le lac de Galilée. Jésus ne va pas les plonger dans l'abîme. L'abîme est une prison pour les démons ou des formes apparentées de démons. Et quand il est fait référence à ça, et c'est une interprétation, entre guillemets, l'étoile qui tombe du ciel, c'est Satan à qui on remet une clé et qui va du coup libérer quoi ? Des sauterelles. Des formes de sauterelles. Ou des formes démoniaques. Et finalement, on se rend compte que là, l'interprétation devient extrêmement compliquée parce qu'elle fait référence à des tas de choses, à des tas d'éléments qui peuvent être pris à la fois au sens figuré comme au sens propre. Sauf que si tout était au sens propre ou au sens figuré, ça serait clair. Si tout était au sens propre, bah, ok, il n'y a pas de problème. Sauf que les différents fléaux sont un mix de ce qui peut être considéré comme propre, comme figuré. Et je vais vous en donner l'exemple. Si ce texte peut être pris autant au sens figuré, le suivant, les suivants, vas-y, s'il te plaît, peuvent être pris au sens propre. En effet, bon nombre de fléaux que nous retrouvons à la fin, ben on les retrouve dans l'Exode. Les plaies que Moïse a fait subir à l'Égypte sont des fléaux que l'on apprend au sens propre du terme. Je vous ai perdu ? Ok ? Vous l'avez dans l'Exode, chapitre 7, verset 17. Et là, il change, en effet, et c'est là que le fleuve va devenir et transformer en sang. Vous retrouvez les mêmes expressions, les mêmes mots que dans l'Apocalypse. Et c'est une condamnation. Dieu punit l'Égypte. Et en effet, on se retrouve dans le même contexte et on se rend compte que ben là, on n'est pas dans le sens figuré du terme, on est dans le sens pur, propre du terme. Et c'est ce qui amène toute cette confusion. Qu'est-ce qui est à prendre au sens propre ? Qu'est-ce qui est à prendre au sens figuré ? Je vous souhaite de ne pas le voir. Dans tous les cas, ça va être le chaos. Des milliers d'êtres vivants vont mourir, que ce soit des animaux. Les herbes vont être détruites. Vous prenez l'Exode chapitre 9, verset 22. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux, sur les herbes des champs. On retrouve les mêmes termes que dans l'Apocalypse. Et on se rend compte que ben là, ce qui s'est passé, on n'est pas dans du figuré, mais on est vraiment dans du sens propre. Et on se rend compte que Jean alterne le figuré et le sens propre. Et on se dit, mais qu'est-ce qui est figuré, qu'est-ce qui est propre ? Et en effet, ça rend du coup la colère de l'agneau complexe à interpréter, complexe à comprendre. Et vous aurez tout un tas de commentaires qui vont vous dire, ben ça c'est sens propre, ça c'est sens figuré. Et inversement. Et c'est ce qui rend l'étude de l'Apocalypse passionnante, parce que chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Chacun a vu l'Antichrist quelque part. Chacun a vu... Et en même temps, j'aurais tendance, et je me refuse à l'interprétation, mes frères et sœurs, parce que je comprends trop que nous devons rester alertes et que nous ne pouvons pas nous fermer sur des interprétations. Il y en a qui ont vu l'Antichrist il y a déjà 10 ans en arrière avec Hitler. Je pense qu'on ne serait plus là si c'était le cas. Et du coup, j'ai envie de dire, restons prudents sur l'interprétation, restons vigilants, ayons les textes en tête pour qu'au moment voulu, nous sachions et nous comprenions ce qui est en train de se passer. S'enfermer dans une interprétation, c'est se risquer de passer à côté de ce qui doit se passer. Et voir le mal ici, et voir le mal ici, voir... Attention. Attention, il y a des blogs entiers sur l'Apocalypse qui disent que ça s'est déjà passé. J'ai envie de dire, si on est là, c'est que ce n'est pas encore tout à fait ça. L'Exode, chapitre 10, verset 21, et là, ça fait référence à la terre qui est dans les ténèbres. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Vous vous rendez compte de ce qu'il dit ? Et Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Sans doute que les coupes et les temps de trompettes, ce seront des temps courts, où il y aura des manifestations particulières de puissance et cataclysmique que les êtres vivants, ou en tout cas les êtres humains, vont vivre. Troisième raison pour laquelle la colère de l'agneau est complexe, Bah, vous avez un terme qui est employé une fois, et c'est l'une des dernières trompettes, c'est la sixième trompette, il est fait référence à l'Armageddon. Ça vous parle, l'Armageddon? Il y a un film qui a été écrit sur l'Armageddon, on est bien loin de l'histoire réelle. L'Armageddon, c'est la bataille que vous trouverez dans l'Apocalypse, chapitre 16, verset 16, et ça correspond à la sixième trompette. Et cette sixième trompette est caractéristique de ce que la bête et finalement le dragon vont envoyer des prophètes, trois esprits, si je me rappelle bien, trois esprits démoniaques pour convaincre et séduire les nations pour aller combattre l'agneau. Et là encore, l'Armageddon, qui veut dire Armageddon, qui se trouve dans la vallée de Jisréel, qui est allé à Jisréel? Il y en a qui sont allés à Megiddo, en Israël. Ça vous parle pas? Megiddo est une forteresse que vous trouvez dans la vallée de Jisréel. Et c'est une vallée qui est très bien connue parce que ce sont un lieu de grandes batailles. C'est une grande vallée, immense vallée fertile, où Israël a mené plusieurs combats, a remporté plusieurs victoires, dont Barak contre les Cananéens. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a parlé de Gédéon qui s'est battu contre les Madianites. Vous vous rappelez de ce texte où ils étaient des milliers et des milliers de Madianites réunis comme le sable d'une plage. Le texte dit ça, c'est dire la quantité des armées. Et en effet, dans l'histoire, Megiddon ou la vallée de Jisréel a été un champ de bataille phénoménal où des armées se sont affrontées, se sont combattues. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on parle souvent de l'Armageddon, mais en fait, on ne sait pas ce qui va se passer réellement. Quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 16, verset 16, on vous parle que les armées vont se réunir à Megiddo, dans la vallée de Jisréel, et puis c'est tout. Alors on fait tout un pataquès de l'Armageddon, mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un sens figuré dessous? Parce que je vais vous montrer à quoi ressemble Megiddo. On y va, on va en Israël. Megiddo est un tel. C'est une colline sur laquelle les hommes ont bâti successivement des forteresses. Et aujourd'hui, c'est un site qui se visite, que l'on va voir. Et puis, vous avez un aperçu de ce qu'est la plaine de Jisréel ou la vallée de Jisréel. C'est une vallée extrêmement fertile. C'est une vallée qui est très riche en Israël, où on cultive énormément. Et au milieu de cette vallée, ben, vous avez le tel de Megiddo, qui a donné Armégiddo dans l'esprit de Jean. Quand il a écrit ça, bah, il avait ça en tête. Et cette plaine, vous la trouvez au nord d'Israël. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous avez un petit carré bleu. La vallée de Jisréel, bah, je ne sais pas. Je n'ai pas de... Est-ce que vous la voyez? Oh, oui, voilà. Vous voyez le lac de Galilée? Il y a la petite flèche. Et la vallée de Jisréel, c'est cette continuité beige-marron qui suit. On ne va pas aller trop vite. Et c'est là que les armées de la terre, inspirées et séduites par des démons, vont se réunir pour affronter dans un combat presque final l'éternel Dieu. Et en effet, c'est à la suite de ça que la septième trompette ou la septième coupe va retentir. Et on ne sait pas ce qui va arriver à cette armée. On ne sait pas si elle va être défaite. Peut-être j'en saurai plus la prochaine fois parce que c'est vraiment long à étudier. Mais on sait très peu de choses sur ce combat de l'Armageddon. La seule chose qu'on sait, c'est qu'à la suite de ça, les éléments cataclysmiques vont se produire. Tremblements de terre, grêle, tonnerre, voix. Tout ce qui entoure la septième trompette et entoure la septième coupe va se produire à la suite de ce rassemblement. Et c'est ce qui entoure le mystère qui se trouve autour de la colère de l'agneau. Et c'est ce qui rend ce passage compliqué, par moments très inaccessible. Pour beaucoup, on s'y perd, on ne sait pas quelles sont les trompettes, les coupes. Permettez-moi de faire simplement, à mon avis, les coupes et les trompettes vont se déchaîner en même temps, peut-être de manière décalée, peut-être de manière ensemble, mais le point final, c'est cette partie cataclysmique où on va retrouver de la grêle, du tonnerre, du feu, des éclairs, des voix, et c'est ce qui va nous amener au millénium. Et là, on dit ouf. Maintenant, permettez-moi de vous partager ce que Jean a voulu nous dire au travers de ça. Parce que nous, Église, Jean s'adresse à des églises. Et je me suis souvent posé la question, pourquoi presque un tiers du livre de l'Apocalypse fait référence à la colère de l'agneau? C'est quand même particulier. Je pense que, quelque part, peut-être j'aurais été Jean, je me serais dit, on va écrire sur la cité céleste. Il y a plus de trucs sur la colère de l'agneau que sur la cité céleste. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis dit, mais pourquoi parler de la colère de l'agneau alors que l'Église ne sera plus là? Qu'en pensez-vous? Alors on y va. Je vais vous donner trois raisons. La rétribution est violente, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas les temps de feu. La rétribution, c'est cette coupe, sept trompettes qui vont ravager la terre, qui vont ravager l'humanité. Je discutais avec une sœur qui disait, mais c'est tellement terrible ce qui va se passer. Et en effet, c'est terrible. Je pense qu'on n'imagine pas le cataclysme que le monde va vivre à ce moment-là. Et en même temps, il est une chose qui est particulière, et c'est mon deuxième point, c'est que les hommes vont s'endurcir comme Pharaon s'est endurci. Quand on lit l'Apocalypse, on a l'impression que Dieu attend quelque chose des nations. Alors que les coupes et les trompettes s'abattent, lisez-le, on a l'impression que Dieu espère que les nations vont se remettre en question. Et je vous ai mis un texte qui est tellement révélateur de ça. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons. Vous vous rendez compte où on en est? Les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre de bois, et qui peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Alors, déjà Christ est sans doute échaudé de son Église persécutée. Parce que ce jugement-là, il tombe sur les nations qui se sont attachées à l'Antichrist, qui ont adoré la bête. Et Christ, malgré cela, laisse quand même une espèce de porte ouverte. Mais si vous pouviez vous repentir, si vous pouviez vous détourner de vos voies, et on a l'impression même, c'est ça... Enfin, ça fait partie des textes qui sont assez bluffants parce que Jésus est en train de régler ses comptes avec des nations qui ont meurtri son épouse. Et en même temps, on sent que Jésus serait attentif ou le Père serait attentif à un moment donné à ce que ces nations se détournent de leur voie. Ça ne sera jamais le cas. Et les trompettes et les coupes traduisent la même chose. Vous prenez l'Apocalypse chapitre 16, verset 12, il y a un endurcissement, et au point que les nations vont blasphémer, ça va aller très loin. Elles pourraient se remettre en question, mais elles ne le feront jamais. Et c'est comme ça qu'on en arrive à cette extrémité de l'Armageddon, où les nations, dans une rébellion finale, à l'apogée de ce que peut être la rébellion conduite par l'Antichrist, conduite par la bête, conduite par le dragon, vont se retrouver à Megiddo pour affronter Dieu. Et on se rend compte, mais quelle folie! Mais quelle folie! Et il y a un aveuglement, il y a, et je l'ai mis, un endurcissement de cœur tel qu'on retrouve dans Pharaon, qui à un moment donné, à l'extrême de l'extrême, face à la nuée, face au feu, face au diplé, continue à poursuivre Israël, continue à vouloir détruire Israël. Alors on pourrait se dire, mais c'est catastrophique pour ces gens. Oui, mais la vérité, c'est que leur cœur sera tellement endurci qu'en fait, on ne peut plus rien faire pour eux. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus va dire. Il va dire « Travaillez tant qu'il fait jour » et il dit « Il faut que je fasse ce que j'ai à faire tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Et il dit « La nuit vient, personne ne peut travailler. » Et on se rend compte que quand Jésus va enclencher les sept dernières trompettes ou les sept dernières coupes, en fait, on ne pourra plus rattraper le monde dans sa folie. On ne pourra plus rattraper le monde dans leur folie. Et quelque part, ce n'est pas ce, j'ai pas envie de dire c'est ce qui justifie ce qui va se passer, mais si, quelque part, le monde court à sa perte, et il va y courir dans un aveuglement le plus total, jusqu'à vouloir même affronter Dieu, vouloir combattre Dieu. Et en effet, cette septième coupe ou septième trompette va marquer la fin où les nations vont s'arrêter, et c'est ce qu'on appelle la fin du monde, en tout cas la fin de ce que les hommes ont vécu, ou du règne des hommes. Et c'est là qu'en effet, la dernière coupe, la septième coupe, va entendre « c'en est fait des hommes, c'en est fait de leur règne ». Et il y a une voix qui va retentir, qui dit « maintenant le règne revient à l'agneau pour l'éternité ». C'est là que le millénium va en effet commencer. Est-ce que je vous ai perdu ? Je vais arriver à ma conclusion, ce soir je ne voulais pas être long. Jésus est vengeur, mais on sent au fond du cœur de notre Dieu cette miséricorde qu'il ne pourra pas répandre sur une nation aveuglément disposée en finir. Et en même temps, ce qui m'a moins interpellé, c'est cette parole de Jésus que l'on doit mettre en parallèle. Quand Jésus dit ça, je pense qu'il faut s'en imprégner parce que c'est clairement l'une des raisons pour laquelle Jean nous fait part de ce qui doit se passer. Je ne pense pas que Jean ait voulu nous dire ça pour le plaisir, et je ne crois pas que derrière Dieu, comme je le dis, jamais Dieu parle gratuitement, mais doit interpeller notre cœur quant aux nations et par rapport à ce à quoi elles sont appelées. On ne peut pas rester de marbre par rapport au jugement qui arrive. On ne peut pas rester de marbre par rapport à ce temps particulier où ça ne servira plus rien de parler et d'essayer d'œuvrer. Quand l'Église sera partie, ça sera trop tard. Mais tant que l'Église est là, elle a un rôle tellement important, il faut qu'elle travaille. Tant qu'il fait jour, mes frères et sœurs, il faut que l'Église travaille. Et quand on regarde, quand Jean met tout cela en lumière, les sept coupes, les sept trompettes, il y a comme ce cri du cœur de Dieu qui dit, mais regardez ce qui les attend. Allez-vous vous satisfaire de votre salut, au point de fermer les yeux sur ce qui attend le monde. Et au plus nous prenons, nous, conscience de cette réalité, c'est sans doute ce que Jean a voulu faire. Il met plus l'accent, vous vous rendez compte, il met plus l'accent sur la colère de l'agneau que sur le paradis. Je veux dire, s'il y avait quelque chose qui devait peut-être nous motiver à nous maintenir, en effet, il fallait écrire plusieurs livres, plusieurs chapitres sur ce qui allait se passer derrière, sur la félicité et sur la royauté. Jean met plus l'accent sur les sept coupes et les sept trompettes que sur la Nouvelle Jérusalem. Et je me suis dit, c'est comme un cri du cœur de Dieu à dire, mais Église, Église, travaille tant qu'il fait encore jour. Église, prends conscience de ce qui attend le monde. Prends conscience de ce que tu es appelé à faire, parce que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes ceux que Dieu a appelés, non seulement pour vivre la félicité, en effet, mais Dieu nous appelle à être ceux qui travaillent ici-bas pour voir le royaume des cieux s'établir. Nous sommes appelés à construire l'Église. Nous sommes appelés à travailler tant qu'il fait jour, parce que quand la nuit viendra, en effet, le monde sera sur une pente où elle ne pourra plus faire marche arrière. C'est terrible de penser ça. Mais il en sera fini de la grâce. Et tant que nous vivons la grâce, mes frères et sœurs, notre rôle pendant cette période que je considère moi comme une grande, la tribulation, c'est un grand mot. On parle souvent de la grande tribulation. À mon sens, on y est déjà dedans, dans la grande tribulation. Mais il faut avoir conscience de ce qui attend le monde. Une fois que l'Église ne sera plus là, le jugement va s'abattre. Et l'aveuglement du monde va pousser le monde dans un extrême où il ne pourra plus faire marche arrière conduisant le monde à sa fin. Et Dieu nous dit, travaille, Église. Travaille, Église. Parle de moi, Église. Amène des âmes à se tourner vers moi. Amène des personnes et des âmes à se détourner de cette tribulation qui attend le monde et du jugement de l'agneau. Et j'aimerais que nous prenions la mesure de ça, de la gravité. C'est sans doute l'un des passages les plus graves des Écritures, les plus compliqués sans doute, les plus complexes à interpréter, mais c'est aussi l'un des plus tragiques, avec des milliers, des millions de morts, je veux dire, avec des souffrances, avec des cataclysmes, et cette colère de l'agneau qui est là, vous avez tué mon Église, vous avez persécuté mon Église. Et le cœur de Jésus, sortant malgré tout, attendant que ces nations fassent demi-tour, attendant que ces nations se repentent de leurs actes. Mais non, ils ne le feront pas. Ils iront jusqu'au bout de leur aveuglement. Que Dieu fasse grâce aux nations. Tant qu'il fait encore jour. Que Dieu fasse grâce à nos familles. Tant qu'il fait encore jour. Que Dieu fasse grâce à ceux que nous aimons, à nos amis, à nos enfants, tant qu'il fait jour. Et tant qu'il fait jour, encore une fois, que nous puissions œuvrer et travailler. Amen. J'aimerais juste qu'on puisse revenir sur le dernier tableau, sur celui-là, si tu veux bien. Nous en sommes arrivés à la colère de l'agneau, nous avons fait l'Armageddon. La particularité du livre de l'Apocalypse, c'est que nous allons faire marche arrière dès la semaine prochaine. Nous allons voir le chapitre 12, 13, voire 14, qui est une rétrospective de ce qu'est la bête et l'œuvre satanique. Mais en attendant, nous allons nous cantonner à ça, rappeler des choses importantes concernant le millénium. On aura l'occasion de revoir rapidement. Satan va être enfermé dans l'abîme. Lisez le texte, il est dit qu'un ange puissant va descendre, je crois que c'est Apocalypse 19. Je veux juste faire le lien avec l'abîme. Vous vous rappelez de l'abîme, j'en ai parlé. Voilà, ah non, chapitre 20. Verset 3, il le jeta dans l'abîme. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma celle à l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour peu de temps. Voilà ce qui va se passer lors de la bataille d'Armageddon. Cet ange puissant va saisir, et là, on fait un bond énorme puisqu'on tombe dans Apocalypse chapitre 20. À la fin de l'Armageddon, avec les différents cataclysmes que va revêtir cette période qui est la fin de la colère de l'agneau et l'établissement du millénium, Satan, lui, va être pris, va être jeté dans l'abîme, fermé à clé avec une chaîne, et il ne pourra plus en sortir, et pendant 1000 ans, Christ va régner sur terre. Ce sera un temps vraiment particulier que le millénium. On va en parler quelque peu la semaine prochaine. Et je vais en rester là pour ce soir. Vous l'avez bien compris quelques instants. Seigneur Jésus, le livre de l'Apocalypse a pour but de montrer les événements à venir à l'Église. Ce qui doit se passer. La révélation est sans doute partielle, ce qui est d'ailleurs toute révélation et prophétie. Il y a un message caché, il y a sans doute des aspects qui nous échappent, et qui ne seront révélés que le moment voulu. Seigneur, dans mon cœur, je n'ai pas tant envie de guetter le temps qui passe, mais j'ai envie de me porter sur les âmes qui se perdent et sur la nécessité que l'Église se réveille quant aux nations qui se perdent. Et j'insiste dessus parce que l'Évangile va dans ce sens quand Jésus parle qu'il est temps de travailler tant qu'il fait jour, parce que quand viendra la nuit, il sera impossible. Mais l'Apocalypse est dans la même réflexion. Si Jean nous permet de voir l'avenir, c'est que l'Église a besoin de comprendre ce qu'attend le monde. Ce qu'attend le monde quand ce monde vivra les ténèbres. Et je prie dans mon cœur que chacun prenne une partie de cette mesure. En mesure l'importance, en mesure la portée, en mesure le danger, la tragédie. Et le Seigneur ne veut pas être insensible à ce qui va se passer, ne veut pas être insensible à ce que le monde va vivre dans les ténèbres. Certes, en effet, il y a la notion de mériter les choses parce que c'est une punition. Jésus va venger les martyrs. Mais Seigneur, dans notre cœur, alors que la lumière est encore là, alors que le jour est encore là, donne-nous les moyens d'être ces instruments de vie. Donne-nous-le, alors que nous savons que ton retour est proche. Tu le dis. Donne-nous d'être ces instruments jusqu'à la fin. Ne veut pas forcément guetter les circonstances des temps et l'avenir, mais Seigneur, permets-moi de guetter les âmes avant tout. Permets-nous de guetter les cœurs. Permets-nous de guetter ceux qui sont dans le désarroi. Permets-nous d'être ces lumières. Permets-nous de transmettre ta vie. Permets-nous de faire de ces hommes et ces femmes, avec l'aide de ton esprit, des gens qui seront sauvés et qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie. Seigneur, travaillons tant que la lumière est là. Travaillons tant que nous pouvons le faire. Travaillons tant que l'Église n'est pas rappelée auprès de son Sauveur. Donne-nous les moyens, les dispositions, les cœurs, que nous puissions moissonner à grande échelle pour le salut de l'humanité. Donne-nous, Seigneur, d'être ces instruments pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour ce livre de l'Apocalypse. Merci, Seigneur, pour ce qu'il évoque en nous et pour ce qu'il traduit dans nos cœurs. Qu'il germe en nous et qu'il devienne cet instrument de puissance pour le salut de l'humanité. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon courage pour la suite.